À l'hôpital, après la crise, c'est toujours la crise. Même si les services ne craquent plus sous l'affluence des patients covidés, la prise en charge des malades reste problématique, voire catastrophique. Au point qu'à Orléans, les infirmiers et les aides-soignants des urgences sont quasi tous en arrêt maladie pour épuisement. À Paris, un service de pointe de l'hôpital Saint-Louis est à deux doigts de fermer, tout comme la maternité de Nevers. Bonjour Frédéric Bizard.
Bonjour.
Vous êtes économiste, spécialiste des questions de protection sociale et de santé, également professeur d'économie à l'ESCP. Vous connaissiez le problème en tant expert et récemment, vous l'avez vécu de l'intérieur. Vous avez été renversé par une voiture début février. Vous vous êtes retrouvé aux urgences d'un grand hôpital parisien. Vous y êtes resté pendant 21 heures. Est-ce que ça a changé votre regard ou est-ce que ça a confirmé ce que vous pensiez, disiez et écriviez ?
Ça n'a pas changé mon regard, mais enfin, quand vous vivez les crises que vous essayez de décrire, de décrypter, de comprendre et de trouver des solutions, et évidemment, vous le vivez de tout votre corps, de tout votre vivant. Donc, j'ai pu voir que le patient à l'hôpital était un fantôme, était avec un personnel soignant fantastique, mais qui ne peut plus faire face aux besoins de l'ensemble des patients qui arrivent à l'hôpital. Alors là, c'était un service d'urgence, c'est encore plus aigu, parce que vous arrivez avec un problème aigu, où il faut notamment une gestion de la douleur, donc il faut du personnel, qu'il n'y a pas. Donc vous passez des temps sur un brancard de 5 heures, 6 heures, 7 heures, et on vous explique qu'en fait c'est la norme, c'est devenu la norme d'attendre des heures sur un brancard. Et donc on s'est habitué dans ces hôpitaux, évidemment ce qui ne plaît absolument pas au personnel soignant, je tiens à le dire, que c'est pas, on vous explique pas que c'est comme ça et que c'est très bien, mais on n'a pas d'autre choix que ça. Et quand vous le vivez du côté du patient, là, vous vous apercevez de la gravité des problèmes. Moi, j'ai eu de la chance d'arriver avec un problème grave, mais en étant bien portant avant. Mais si vous arrivez en étant plutôt mal portant, déjà avec des affections ou âgé, et avec un problème qui se rajoute là-dessus, c'est une question vitale. Et malheureusement, on voit qu'il y a un risque vital lorsque vous êtes à l'hôpital aujourd'hui. Donc, je crois qu'on est au bout du bout.
L'hôpital, c'est un lieu qui maltraite les patients aussi bien que les soignants.
Alors, ne généralisons pas, sauf que vous avez une forme de maltraitance dans certains endroits lorsque, par exemple, la douleur n'est pas prise en charge pendant des heures chez des patients qui sont vraiment extrêmement avec une douleur très très aiguë. Donc oui, c'est une forme involontaire de maltraitance. En tout cas, c'est comme ça que c'est vécu. Et d'ailleurs, je pense que s'il y avait des représentants de patients, ouais, je le dis souvent, il faut juste faire prendre conscience de ce qui n'est pas normal. Parce que ce qui est devenu une normalité dans un pays comme la France, dans les hôpitaux, et dans des grands hôpitaux parisiens, hein, on parle souvent des hôpitaux de périphérie, là je parle de grands hôpitaux parisiens, n'est pas normal.
Est-ce que c'est inédit ? Est-ce que l'hôpital public a déjà connu une telle crise ?
Alors, l'hôpital, avant ce que l'on a connu, les grands CHU avec les ordonnances Debré de 58, non, on n'a pas eu cette crise-là, parce qu'on était dans un développement extrêmement important de l'hôpital, il fallait médicaliser les territoires et le centre hospitalier universitaire était vraiment un lieu d'excellence où il y a toujours eu des problèmes évidemment comme tout le monde, mais où il n'y avait pas. Donc là, on est dans une crise existentielle, c'est-à-dire que vous êtes dans un développement du système qui va vers l'ambulatoire, qui va vers la gestion de patients chroniques et donc qui quelque part se déshospitalise. Mais tout ça n'est absolument pas pensé. Donc l'hôpital vit une triple crise. Elle vit une crise de gouvernance, elle vit une crise organisationnelle et elle vit une crise de confiance dans son avenir.
Et comment on en est arrivé là ? De quand date le début des problèmes ?
D'une vingtaine d'années, puisque c'est l'environnement qui a radicalement changé, si vous voulez. Hein. C'est pas, on a toujours des professionnels de santé, c'est ce qui n'est pas compris des pouvoirs publics, c'est qu'on se dit, mais on a toujours des professionnels de santé exceptionnels. On y met beaucoup de moyens. Hein. La France dépense 2 points de PIB de plus si on regarde l'ensemble des dépenses de santé.
Donc c'est pas un problème d'argent.
Non, mais on a vu qu'avec le Ségur de la santé, si on ne fait pas, la crise était aussi venue par un rationnement sur des actifs que l'on ne rationne pas. On ne rationne pas le salaire des soignants. On ne rationne pas les innovations technologiques. Et bien, depuis 20 ans, ce sont les deux postes sur lesquels on a rationné. Donc, tout d'un coup, il y a eu un réveil avec la crise, où là, les soignants ont dit, nous, on veut bien se sacrifier pour traverser la crise, enfin, pas dans les conditions actuelles. Mmh. Donc, on a mis 10 milliards d'euros sur la table, de façon non différenciée, on ne va pas rentrer dans le détail, mais enfin, on aurait peut-être plus privilégié ceux qui devaient être le plus privilégiés, c'est-à-dire sur lesquels il y avait le plus de retard, qui sont notamment les soignants paramédicaux, ces aides-soignantes et ces infirmiers, mais on a considéré que c'était tout le monde pareil, 170 euros, tout le monde pareil, sauf que c'était pas comme ça dans la réalité. Bon, mais au-delà de ça, ce qu'il y a d'intéressant dans ce Ségur de la santé, c'est que, de façon sincère, le gouvernement a cru que cet effort exceptionnel de moyens financiers sur les soignants allait permettre de régler la chose. Sauf que c'est un élément parmi d'autres. Il y a une, encore une fois, cette crise de gouvernance, ce ne sont pas les bonnes personnes qui gouvernent à l'hôpital. C'est le cas sur l'ensemble de la santé. C'est-à-dire qu'on a dit, et ça date de M. Sarkozy en 2008, on a dit, je veux qu'une seule personne à la tête des hôpitaux, c'est l'administratif. Le pouvoir médical doit être sous la tutelle de l'administratif. Ça fonctionne pas. Les sachants, ce sont ceux quand même qui ont ce pouvoir médical. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent être les seuls à piloter. C'est juste pour prendre un exemple. Mais ça, on le dit, les soignants le disent en permanence depuis des années.
Mais pourquoi le message passe pas?
Parce que le pouvoir technocratique a mis 20 ans pour contrôler tout ce système et a, lui aussi, avec sincérité, la conviction que si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il faut mettre toujours un peu plus de bureaucratie. Il faut contrôler un peu plus le pouvoir médical. Parce qu'ils ont le sentiment que ce pouvoir médical n'est pas capable de gérer et n'est pas capable d'organiser. Donc là, il y a une vraie crise de confiance entre les deux. Et là, c'est une décision politique. Il faut remettre le soignant au cœur de l'organisation, tout en ayant des gestionnaires efficaces à leur côté. Il n'y a pas un seul médecin à la tête d'un hôpital public. C'est curieux, lorsque vous regardez le centre de lutte anti-cancer, qui est du privé non lucratif, il y a quasiment que des médecins à la tête des hôpitaux, et ça fonctionne beaucoup mieux. Donc on connaît les solutions, mais il y a un blocage des pouvoirs publics pour changer ça.
Et est-ce que cette crise qui concerne les hôpitaux peut se régler juste en traitant les hôpitaux, ou il faut repenser tout l'ensemble du système de santé dans sa globalité?
C'est une excellente question, puisque c'est évidemment une crise qui est systémique. La solution, pour prendre un exemple, c'est par exemple de partir de territoire. Vous savez que le seul service public qui est reconnu, c'est le service public hospitalier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on demande tout à l'hôpital. Sauf que l'hôpital est devenu finalement un lieu de passage.
On lui demande tout parce qu'il y a des déserts médicaux et il y a certains endroits où on ne peut qu'aller à l'hôpital.
Oui, mais parce que vous les accélérez, ces déserts médicaux. D'accord ? Donc vous les accélérez et puis l'hôpital ne peut plus tenir. Donc il faut considérer que ce service public, qui veut dire quoi ? L'égalité, qui veut dire la continuité des soins et qui veut dire ce qu'on appelle la mutabilité, c'est-à-dire l'adaptation. Ça ne doit pas être qu'à l'hôpital, ça doit être dans les territoires pour l'ensemble des services de santé. Donc il faut que ce service public soit transféré à l'hôpital. Il faut que le personnel hospitalier soit responsable d'un territoire de santé de la même façon que le personnel de ville doit l'être. Vous voyez, c'est une approche qui doit être transférée vers la population et avec une approche aussi des personnes en bonne santé. Il faut se préoccuper des gens en bonne santé si on veut ralentir le flux de personnes qui arrivent à l'hôpital pour des questions notamment d'affection de longue durée.
Une dernière question, hein, parce que le temps file. Est-ce qu'on a les mêmes problèmes dans le privé?
Alors, le privé, c'est une question de vie ou de mort de s'adapter. Donc lui, si vous voulez, il est toujours obligé de s'adapter. Mais la crise, par exemple, de vocation, la difficulté de recrutement est égale dans le privé. Donc vous avez aujourd'hui ce qui est mauvais, c'est-à-dire vous avez une concurrence exacerbée public-privé pour recruter. Donc vous avez une inflation des salaires dans le privé, sur lequel le public ne peut pas suivre, puisque les salaires sont décidés nationalement par l'État. Et donc ça accélère, si vous voulez, les choses que certains établissements ne peuvent pas suivre dans le privé. Donc il y a une crise de recrutement généralisée. Parce qu'il y a une fuite des ressources humaines. On est à près de 150 000 infirmiers et aides-soignantes qui sont en âge de travailler et qui sont diplômés et qui ne travaillent pas.
Merci Frédéric Bizard. Et je cite votre dernier livre qui est paru à l'automne dernier, L'autonomie solidaire en santé. Et c'est paru aux éditions Michelon. France Inter.